si vous êtes venu ici aujourd'hui, si vous y regardez de près, c'est forcément que quelque part en vous, il y a une recherche. C'est-à-dire qu'il y a un désir d'arriver quelque part, d'aller quelque part, d'acquérir quelque chose, de vivre quelque chose, peu importe quel mot qu'on va mettre, mais c'est un peu comme s'il y a une impression de manque. Il y a une impression de non-bonheur permanent. Donc il y a une recherche. Et on cherche quoi ? Ben, on cherche, on va dire, le bonheur, on pourrait dire l'unité, l'amour, la paix, la joie, la tranquillité, peu importe le mot aussi là qu'on va mettre derrière, on va résumer ça sous le mot bonheur. On recherche le bonheur. Ce qui signifie que on estime qu'il nous manque quelque chose. Il manque quelque chose à notre bonheur aujourd'hui. Qu'on soit vraiment dans le 36e dessous ou pas très loin d'un bonheur permanent et constant, il y manque quelque chose. Il y a cette sensation. Il y a une idée, quelque chose comme ça. Et en fait, pareil, si on regarde de près, on va s'apercevoir que tout ce qu'on cherche dans notre vie, c'est toujours pour plus de bonheur. Si on veut une belle maison, si on veut un compagnon de vie, si on veut des enfants, si on veut une voiture, si on veut peu importe, c'est toujours parce qu'on pense, on croit que ça va nous apporter un certain bonheur. Un certain confort aussi, bien sûr, mais aussi un certain bonheur. C'est-à-dire que ce qu'on cherche, c'est la vibration dans le cœur, c'est le sourire, c'est des choses comme ça. Et alors, bien souvent, cette quête passe par plusieurs étapes. D'abord, on va chercher à réussir dans la vie, par exemple. Puis on va chercher à fonder une famille. Puis on va chercher, si ça ne suffit pas, peut-être on va être en quête spirituelle. Et en fin de course, on va arriver à « Ok, mais tout ça, finalement, ça ne m'apporte pas le bonheur que je cherche. » Qu'est-ce qui se passe ? Et à ce stade-là, on va être obligé de se dire « Eh ben, peut-être, en tout cas, ça peut être souhaitable d'arriver à ce point où il vient cette phrase, mais je ne peux pas atteindre le bonheur. Je, moi, ne peux pas atteindre le bonheur. J'y arrive pas. Et alors, à la fois, il y a cette espèce d'inconfort qui peut être ressenti avec ça, parfois une dépression, même carrément. J'y arrive pas. J'y arriverai jamais. Et maintenant, je vais rester malheureux jusqu'à la fin de mes jours. Ou j'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où des gens comme moi intervenons, c'est-à-dire que peut-être que c'est parce qu'on ne regarde pas dans la bonne direction. Jusqu'à présent, on nous a appris, et puis on est toujours allé dans ce sens-là, on va chercher le bonheur, je vais dire, à travers quelque chose d'extérieur. Mais quand je dis extérieur, j'entends pas forcément complètement extérieur à ce que j'estime être moi, d'extérieur à ce qui est. On va le chercher dans la manifestation, peut-être plus justement dit comme ça. On va le chercher, comme je disais tout à l'heure, à travers une réussite professionnelle, à travers une vie de famille, à travers des acquisitions, à travers un travail sur soi. On va chercher à comprendre plein de choses, à travers une bonne santé physique. Mais tout ceci s'adresse à la partie manifestée de nous-mêmes, à la partie manifestée de ce qui est. C'est-à-dire qu'on va essayer d'atteindre le bonheur de ce que je crois être moi. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que moi, je vais atteindre le bonheur un jour en faisant telle et telle chose. C'est-à-dire qu'il y a une idée de stratégie. Il y a une idée de devoir acquérir quelque chose. Il y a une idée de devoir faire quelque chose pour. Alors, bien sûr, je ne dis pas que tout ça ne marche jamais. Évidemment que la réussite professionnelle peut apporter des choses, la vie de famille aussi, etc. Mais je n'ai pas un bonheur définitif. Jamais moi ne pourra atteindre un bonheur définitif. Parce qu'en fait, c'est dans l'autre sens que ça se passe. On a tous l'idée d'un moi. On croit tous que moi, je suis une personne dans le monde qui agit, qui choisit, qui pense et qui est capable de faire des choses. En réalité, c'est juste une croyance. C'est faux. Quand on était petit, on croyait au Père Noël, et on y croyait vraiment. Il y avait la magie du jour de Noël, on voyait les cadeaux, et c'était le Père Noël qui nous les avait apportés. Et on y croyait vraiment. Et pourtant, aujourd'hui, on sait bien qu'il n'y a jamais eu de Père Noël. Mais croire au Père Noël fonctionnait. C'est-à-dire, le fait de croire au Père Noël avait des conséquences sur notre vie. Et le jour où, moi, en tout cas, j'ai appris qu'il n'y avait pas de Père Noël, j'ai été très déçu. Et en même temps, ça va vers plus de vérité. C'est la fin d'un monde de rêve, à un certain niveau, mais au profit d'un monde de réalité, d'un peu plus réel. Et là, c'est un peu la même chose. En réalité, il n'y a pas de moi. Il n'y a pas de moi en tant qu'individu séparé, en tant qu'entité séparée. Il n'y a pas de moi qui est acteur de sa vie. Il n'y a pas un moi qui pense. Il n'y a pas un moi qui agit. Il n'y a pas un moi qui fait des choix. C'est une illusion, c'est une croyance, c'est quelque chose qu'on nous a appris quand on était petit. C'est toi qui as fait ça, et tu ne dois pas le faire, et il faut faire comme ci, et tu ne dois pas faire comme ça, etc. Et toutes ces injonctions nous apprennent que, ah, il y a donc un moi, il y a donc un individu séparé, qu'on nous a appris qu'il y avait un Père Noël, on finit par croire qu'il y a un moi. Il se trouve que le Père Noël, les adultes savent qu'il n'y a pas de Père Noël, donc quand on devient adulte, on arrête de croire au Père Noël. Mais le moi, on continue à nous injecter des croyances par rapport à ça. Il y a un moi, tu es responsable de tes actes, c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui penses ça, c'est toi qui agis comme ça. Évidemment, apparemment, c'est ce qui se passe. Et je ne dis pas que c'est pas ce corps qui est en train de parler, c'est bien ce corps-ci qui est en train de parler. Mais penser qu'il y a un moi qui est en train de calculer ce qu'il dit, ça c'est faux. C'est-à-dire que les mots sortent, et quand j'ai commencé à parler, j'avais aucune idée de ce que j'allais dire. Et les phrases se forment au fur et à mesure. Et vous, si vous écoutez, il y a des choses qui se répètent d'ailleurs. Et ça n'a aucune espèce d'importance. C'est pas calculé. Les mots sortent, les mots viennent. Il y a une idéation qui se produit. Il y a des mots qui viennent, qui sont prononcés par personne. Et quand je dis personne, ça ne veut pas dire que c'est pas Gérard qui ne parle pas, enfin que Gérard ne parle pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un individu séparé capable de penser les mots qui sont prononcés. Et si je vais plus loin, il n'y a pas un individu séparé qui fait des choix. Il n'y a pas un individu séparé qui est acteur dans le monde. Il y a action. Mais pas à partir d'un moi. Et en fait, ce que disent tous les enseignants, tous les guides, on va dire, pour mettre un mot, on va dire enseignants, dans cette perspective non duelle, c'est qu'il n'y a pas de moi. Il n'y a pas de moi. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en aura jamais. Et comme il n'y a pas de moi, et qu'il n'y en a jamais eu, qu'il n'y en aura jamais, aucun moi n'a jamais rien fait. Et si juste vous laissez résonner ces paroles, il y a plusieurs possibilités. L'une, c'est que vous sentiez soulagé. Ah, mais alors, je ne suis pas responsable de tout ce qui s'est passé dans ma vie. Et c'est vrai que si je regarde, je vois qu'il y a plein de choses. Si ce n'est pas choisi, elles me sont tombées dessus, quoi. Elles sont arrivées. En réalité, tout est toujours arrivé. On n'a jamais rien fait, il n'y a pas de moi. Il peut y avoir une réaction complètement inverse. Ça, c'est complètement faux, c'est stupide. Et si jamais vous avez une réaction du style « sur que si, il y a un moi », alors c'est le moment de le dire.
Moi, j'ai l'impression que c'est à la fois l'un, à la fois l'autre. Oui. On dit, il y a des moments où j'ai le sentiment de faire quelque chose, et il y en a d'autres où, vous disiez tout de suite, ça m'est tombé dessus.
Oui. Alors, si vous regardez les moments où vous avez l'impression de faire vous faites quelque chose. Est-ce que vous pouvez en parler, nommer un exemple?
Décider de faire une action quelconque.
Par exemple.
Bricoler, faire prendre des outils, faire un objet.
D'accord. Donc à un certain moment, vous choisissez de bricoler. Est-ce que vous pouvez vous souvenir de la dernière fois que vous avez bricolé ?
Hier.
Qu'est-ce qui a motivé ce choix ?
Non, c'est vrai, je n'ai pas non plus vraiment.
Peu importe.
Ce qui a motivé ce choix, parce qu'il manquait quelque chose que je n'ai pas terminé.
Il y avait quelque chose qui n'était pas terminé. Qui était en cours, qui n'était pas terminé. Et qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi l'avoir terminé à ce moment précis et pas une heure avant ou une heure après ou la veille ou...
Ah ben, parce que je me sentais disposé à ce moment-là.
Et qu'est-ce qui a fait que vous vous sentiez disposé à ce moment-là ? Est-ce que vous avez choisi de vous sentir disposé à ce moment-là à finir cette chose ?
Non.
Non. C'est-à-dire que, vous voyez ce que je veux dire ? On a l'impression d'un choix.
Ouais.
Vous avez l'impression d'avoir choisi de bricoler. En réalité, vous aviez une disposition à ce moment-là à faire ça. Qui s'est exprimé ? Ah tiens, je vais faire ça.
Ouais.
Et vous avez l'impression de choisir. En réalité, il y avait une disposition sur laquelle vous n'avez aucun choix qui était là et qui s'est exprimé. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Oui, tout à fait.
Je vous propose vraiment d'explorer ça pas à pas. Un autre choix, allons-y, quoi. Si vous avez l'impression de choisir ou si vous avez l'impression que c'est moi qui agis, allons-y.
Moi, j'ai l'impression... Oui,
mais c'est moi qui facilite l'engagement. On va garder moi-je. Hein.
D'accord. On peut se rendre compte facilement que c'est un concept, intellectuellement. Le moi est un concept. Mais dans la vie quotidienne... On est parfois rattrapé par ce moi parce qu'il est fort, parce qu'il a une puissance et parce qu'on a des choses quotidiennes.
Exemple.
À faire. Ben, je ne sais pas, se lever le matin pour aller bosser alors que bon, on a envie de faire autre chose, je ne sais pas.
Alors est-ce que c'est moi qui choisis de me lever le matin pour aller travailler ?
Ben oui.
Ok. Pourquoi est-ce que tu te lèves le matin ?
Parce que j'ai des choses à faire.
Et obligé par qui, par quoi ?
Par moi.
Par moi. C'est-à-dire que je m'oblige à me lever le matin et à aller au travail.
Bien sûr.
Et qu'est-ce qui fait que tu t'obliges à te lever le matin ? Pourquoi ce choix ? D'où provient ce choix ?
Ah, parce que je ne sais pas comment dire ça, mais parce que je suis identifié à Patrick, personnage, qu'il y a des choses à faire, etc. J'en ai la conscience, je peux prendre la distance et l'observer, mais je le fais quand même. Parce que je fais partie de la société.
Tu peux prendre la distance et l'observer,
oui.
Mais je le fais quand même.
Oui.
C'est-à-dire que tu ne prends pas cette distance ?
Certainement.
Et pourquoi tu ne prends pas la distance ?
Ben, je ne sais pas, c'est la question un peu.
Est-ce que tu as le choix de la prendre ? Au moment précis où ça se passe, pas dans l'absolu.
Oui, j'ai le choix. Oui.
Et comment ça se fait que tu ne le fais pas ?
Peut-être que le moi personnage n'est pas assez convaincu, je ne sais pas.
Attends, donc il y aurait un moi personnage qui ne serait pas convaincu qu'il faut prendre de la distance, et il y aurait un moi pas personnage qui serait convaincu qu'il faut prendre de la distance, ce serait meilleur.
Mais ça frise de la schizophrénie, là, mais...
non, comment mais... savoir qu'il y a un public ?
Oui, d'accord. Bien sûr. C'est ça le sens de ma question, en fait. C'est pourquoi est-ce qu'on peut effectivement observer dans certains instants, par exemple, méditatif, on peut effectivement observer qu'il y a un moi qui agit en tant que personnage et qu'on n'est pas, je ne sais pas, c'est peut-être intellectuel, j'en sais rien, mais je n'ai pas la capacité de faire autrement. Que de me lever le matin, que de...
Mais tu le dis quand même, ce n'est pas un choix, tu n'as pas la capacité de faire autrement. Tu pars de « je choisis de me lever le matin » et deux minutes après, tu dis « j'ai pas la capacité de faire autrement ».
Ça rejoint à ce que je disais au départ.
À savoir ?
Que je peux le voir, mais je ne le fais pas autrement.
Mais oui. Tu peux constater qu'il y a des choses qui se passent et que tu n'as aucun pouvoir dessus.
C'est ça.
Donc tu ne peux pas dire qu'il y a un moi qui décide.
Ben, le moi, en tant que concept égo, il a l'impression de décider.
Ah, il y a l'impression d'avoir un moi et il y a l'impression que le moi décide. Jusque-là, je suis d'accord. C'est bien par ça qu'on est pris.
Oui,
mais est-ce que c'est vrai ?
Ben, on le sait que c'est pas vrai.
Tu peux avoir l'impression qu'il y avait un Père Noël, et il n'y en avait quand même pas. Est-ce qu'il y a réellement un moi ? Est-ce qu'il y a réellement un choix ? Des choix qui sont faits ?
Ben, au bout du contenant.
Et c'est ça qu'il s'agit déjà de voir, tu vois. Parce que si tu penses que c'est moi qui décide, alors tu prends la responsabilité de ta démarche. Mm-hmm. De si je ne médite pas, c'est parce que je pense trop. Mais non, tu ne peux pas t'empêcher de penser. Par exemple, tu comprends ? Donc tu n'as pas ce choix. Et après, tu rajoutes une couche. Mais je pense trop, il faudrait vraiment que j'arrête de penser. Ah là là, mais. Ah ! Tu comprends ? Et tu te fais de plus en plus de mal. Mais tu ne peux rien dès la base. Tu ne peux rien au fait de penser. Et tu ne peux rien au fait de penser, je devrais arrêter de penser. Ni au fait de te dire, vraiment, je ne médite pas bien parce que je ne suis pas un bon pratiquant. Parce que tu vois, tu comprends ? Tu n'y peux rien. C'est des pensées qui arrivent. Mais si c'est pas vu, elles sont crues. Tu colles, il y a collage à ces pensées, elles sont crues, et c'est la fin des haricots parce que ça crée tes croyances, ça crée ta vie, ça crée ton état intérieur, ça crée tout ça.
Mais c'est frustrant.
Mais c'est frustrant.
Qui est frustré, ouais.
Non, c'est frustrant. Il y a l'expérience d'une frustration.
Bien sûr.
Bien sûr, on peut dire qu'il est frustré quand il n'y a pas de moi, c'est pas le moi, alors c'est quoi ? Ça va pas résoudre le problème. Il y a l'expérience d'une frustration, mais qui vient d'où ? Et là, je ne parle plus du choix, on parle des pensées crues, des croyances. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a la croyance, par exemple, en un moi, on va croire que c'est moi qui agis dans le monde. Si on a la croyance en qu'on choisit, on va croire qu'on fait des choix, qu'on fait le choix, par exemple, de penser. Mais regardez, est-ce que vous pensez vos pensées ou est-ce qu'elles arrivent ? Est-ce qu'elles apparaissent en vous ?
Elles arrivent.
Alors qu'est-ce qui vous permet de dire « je pense » ? Pourquoi pensez-vous que c'est vous qui pensez ? Puisque quand vous regardez, elles ne font qu'arriver les pensées. Vous ne les avez jamais pensées.
Donc les pensées, c'est de la mémoire.
C'est des pensées. C'est comme les sensations. Pour moi, les pensées sont perçues comme des perceptions. C'est pas vous qui voyez des taches de couleur avec vos yeux. Les yeux voient spontanément. C'est pas vous qui ressentez quelque chose dans le corps. Le corps a des sensations de fait. Et c'est pas vous qui pensez, il y a des pensées qui arrivent. Mais vous sentez la différence si vous dites « je pense, je devrais arrêter de penser » ou bien « les pensées arrivent, j'y peux rien » ça change la vie, quoi. Arrêtez, essayez d'arrêter de penser. Vous ne pouvez pas, quoi. 10 minutes, ça va déjà être trop long. Il va falloir. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais moi, je n'y arrive pas. Hein? On ne peut pas arrêter. Essayez d'arrêter de sentir dans le corps. Ce n'est pas possible. Arrêtez d'entendre les sons. Arrêtez d'avoir des impressions visuelles. Ce n'est pas possible. La mécanique fonctionne comme ça. Et en fait, vous voyez, tout ce qu'on appelle la perspective non-duelle est orientée vers ce que j'appelle moi le regard, vers regarder. On pourrait dire observer, on pourrait dire écouter, on pourrait dire être avec, on pourrait dire peu importe le mot, pour le changer. Moi, j'aime bien le mot regarder, enfin, c'est celui qui vient comme ça. Donc, regardez, est-ce que vous pensez vos pensées ou est-ce qu'elles arrivent ? Et alors, si tu n'es pas responsable de penser, lorsqu'en méditation, il y a des pensées, et que vient se rajouter la pensée, il faudrait que j'arrête de penser. Oh là là, j'y arrive pas. C'est une pensée qui apparaît. Alors, si on pense qu'on pense nos pensées, immédiatement on colle à la pensée, on se dit, on réfléchit même pas. La pensée est vue comme est crue comme étant vraie. Elle est prise pour vraie, pour réelle. Et alors, on adopte la croyance, je devrais arrêter de penser lorsque je médite. Mais si il est vu que les pensées apparaissent. Eh bien, cette pensée-là est apparue. Je n'ai pas besoin d'y croire. C'est une pensée qui apparaît en moi. Ce n'est pas moi qui la pense. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Si elle n'est pas crue, elle s'effondre. Elle disparaît. Comme n'importe quoi, hein. Je touche ma main, il y a une sensation, j'arrête de toucher la main, la sensation s'arrête. C'est-à-dire, je ferme les yeux, ça s'arrête. Et les pensées, c'est un mécanisme à peu près similaire, c'est-à-dire que si elles ne sont pas crues, elles passent comme les nuages dans le ciel.
Et d'où elles sortent ?
elles arrivent, d'où arrivent les sensations? Alors, moi, j'ai envie de dire, le cerveau est un organe de perception des pensées, comme les yeux sont un organe de perception des phénomènes visuels. Mais on a tendance à penser autrement. Comme on pense qu'on pense, hein, y en a un qui a dit « je pense donc je suis », alors c'est moi qui pense. Non, il y a des pensées qui apparaissent. Pour la petite histoire quand même, Descartes qui a écrit « je pense donc je suis » a écrit plus tard « je suis, j'existe ». Ce qui est tout à fait différent, ça on ne nous l'a jamais dit à l'école. Dans les méditations métaphysiques.
Et pour revenir à la méditation, il y a des pensées qui arrivent, oui, et qui nous déconcentrent ou descendent.
Non, c'est une pensée. Penser que les pensées descendent, c'est une pensée. Elle vous décentrerait de quoi, d'ailleurs?
Pour méditer, je me fixe sur quelque chose.
Mais, alors, c'est-à-dire que vous estimez qu'une bonne méditation, c'est être fixé sur quelque chose, sur un objet des sens.
Ouais.
C'est une pensée. Est-ce qu'elle est vraie?
Ce qui me paraît vrai, c'est que quand j'ai des pensées comme ça, j'essaye de me recentrer pour ne plus avoir ces pensées.
Quand vous avez des pensées, vous essayez de vous recentrer sur l'objet des sens, sur l'objet de la méditation, parce que chacun sait que quand on est concentré sur un objet, les autres, fait, on dit en anglais, s'estompent,
ouais,
jusqu'à disparaître. Si on étudie et qu'on est très concentré, on n'entend plus les bruits alentour. Pourtant, les oreilles les entendent encore. En fait, la conscience en a encore conscience. Tout d'un coup, s'il y a un bruit fort, on va quand même se retourner, on va sursauter. Donc c'est bien qu'ils soient entendus. C'est bien qu'il y en a conscience. Mais la conscience est orientée vers un autre objet. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, il y a des choses qui sont conscientisées et d'autres pas. Alors moi, ce que je dirais dans ce cas-là, c'est que si on est concentré sur un objet, il n'y a plus que cet objet à la fin qui peut être perçu. Peut-être que les pensées ne sont plus perçues. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais qu'elles ne sont pas conscientisées.
Ouais.
Et que peut-être il n'y en a plus. Et alors, qu'est-ce que ça importe? C'est-à-dire qu'il y a l'idée que si je me concentre sur un objet, j'aurai un résultat. Lequel? La méditation? Mais c'est quoi la méditation? Mais ça apporte quoi? C'est quoi le but? Vous voyez, on va remettre plein de choses en question. Le but, c'est vraiment de regarder les choses comme elles sont, non pas comme on croit qu'elles sont. Ben pourquoi pas? Mais c'est vous qui connaissez la réponse. Pourquoi est-ce que vous le faites?
Pour essayer de calmer les pensées.
Alors, si c'est pour essayer de calmer les pensées, excusez-moi, arrêtez tout de suite. Non. Bon, sous méditation, on met plein de choses. Moi, je parlerai, c'est pour ça que je préfère le mot regard. Regardez ce qui arrive, tel que ça arrive, ça me paraît très intéressant. Parce que ça, c'est un exercice de prise de conscience, entre guillemets, à tous ces mots. C'est-à-dire que vous vous installez et vous êtes juste là, tranquille, vous pouvez le faire maintenant. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là, maintenant? On entend la clim, il y a le son de ma voix, cligner des yeux, il y a telle sensation dans le corps, il y a une pensée qui peut arriver. Mais en quoi est-elle différente de tout le reste? En quoi une pensée qui apparaît à l'esprit est-elle différente du son de ma voix? Si j'en fais rien de plus que le son de ma voix, ou que le bruit de la clim, ben j'y prête pas attention. Pardon?
C'est plus du bruit.
C'est plus du bruit. Ça passe, je veux dire. Il y a autre chose qui vient. Il y a une autre sensation. Il y a un mouvement du corps. Il y a une autre pensée, il y a le regard qui se tourne, il y a etc. Ça vient de la méditation. Parce qu'il n'y a aucune volonté d'aller quelque part, il n'y a aucun désir d'atteindre quelque chose. Et si je suis fait ça là maintenant, c'est comment? C'est tranquille. C'est
la paix.
La paix.
C'est l'amour.
L'amour. C'est pas par hasard ce que vous cherchez. C'est déjà là. Et ça, c'est aussi ce que répètent tous les enseignants de la percée individuelle. Vous êtes ce que vous cherchez, et vous ne vous rendez pas compte de ça. Et oui, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on a fait ? Rien, on a juste regardé ce qui arrive. C'est rien de spécial, quoi. Il ne faut pas être super intelligent pour le faire. Il ne faut pas des capacités extraordinaires. Tout le monde peut le faire.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'on préfère choisir d'être identifié ? Enfin, choisir, on préfère rester identifié.
Il n'y a pas de préférence. Tu préfères pas choisir et t'identifier. Il y a identification de fait. Il y a identification. Mais si tu penses que tu as choisi d'être identifié, tu crées un problème. Si tu crois en plus que tu continues à le choisir, alors vraiment, là, c'est que vraiment, t'es un vilain garçon, tu vois. Mais si tu vois rien, ah tiens, oui, il y a identification. Mais regarde-le là maintenant. Il y a identification. À quoi au juste ? Au mental, c'est quoi le mental ?
Aux pensées.
Aux pensées, c'est un peu plus vrai. Il y a l'identification à certaines pensées. Lesquelles ? À quelle pensée es-tu identifié ?
Moi-je.
Je suis identifié à la pensée moi-je. Bing ! Super ! T'as compris que c'était une pensée ? Moi-je est une pensée, Patrick. Tu viens de le dire. Si moi est une pensée, ça n'a rien de réel. Tu peux pas me mettre là en face de moi. Non, il n'y a personne qui peut lâcher prise, il n'y a pas un moi qui pourrait lâcher prise. Tout de suite, mais tu vois comment c'est rusé le mental, tout de suite va essayer de récupérer. Il y a tout de suite une pensée qui, ah oui, ça y est, j'ai compris, je vais faire ça comme ça, je. Clac, tout de suite mise en place d'une stratégie. Pardon ?
Encore une technique.
Oui, c'est pas la peine, et en plus ça coince, parce que, c'est quoi la phrase ? Donc il faut lâcher prise, ça s'appelle une pensée. Ou bien je crois à cette pensée et ça y est, je suis parti en démarche de lâcher prise, ben, bon courage. Ou bien je vois que c'est une pensée, ah tiens, c'est juste une pensée. Est-ce que je peux lâcher prise ? Est-ce que je peux faire le choix de lâcher prise ? Est-ce que vous avez un jour, vous, de vous-même lâcher prise ? Ou est-ce qu'un jour le lâcher prise arrive ? Parce que vous avez pris conscience de quelque chose, il y a une prise de conscience qui s'est faite et le lâcher prise se fait. C'est pas vous qui lâchez prise si vous regardez. Alors vous regardez la pensée. Ah, donc je dois lâcher prise, je vais apprendre à lâcher prise. Ben non, je peux pas, je sais que je peux pas. La pensée, elle s'effronde, elle est vue comme étant fausse. Et qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste ? Regarde avant de répondre, hein !
Qu'est-ce qui reste ? Reste moi.
Moi ? Ah, il reste moi ? C'est quoi moi ? Ok, donc il reste moi. Mais c'est intéressant, mais c'est ça la démarche. Hein. Pour moi, c'est vraiment. C'est, on est au cœur même de la non-pratique, la pratique de la non-pratique, de la voix sans voix. C'est exactement ça. C'est juste regard. C'est pas toi qui regardes. Il y a regard. C'est ça aussi qui est intéressant à voir. Je ne peux pas regarder. Ah, j'ai compris, maintenant j'ai rien à dire, regarde, alors ben, je vais regarder. Non, c'est pas moi qui regarde. Il y a regard, je suis regard. Pareil pour tous ceux qui veulent développer l'amour, la paix et la joie, c'est pas la peine. Abandonnez tout de suite, vous êtes la joie, la paix, l'amour, etc. C'est pas la peine de le développer. Par contre, le réaliser, ça oui, ça c'est intéressant. Alors, par-delà, il reste moi, tu dis, ok, regarde, c'est quoi moi ? Regarde, vraiment, regarde, ressens-le. Qu'est-ce qui te fait dire moi ? Parce que là, les réponses intellectuelles ne sont pas intéressantes. C'est que des pensées.
C'est la séparation.
C'est-à-dire que quand tu dis reste-moi, tu as un sentiment de séparation ?
Oui, par une certaine forme d'isolement de,
okay.
De ce qui m'entoure. Quoi, je sais.
Tu te sens séparé et isolé de ce qui t'entoure là tout de suite ?
Même presque, oui, oui.
Ok, et eh bien regarde le presque. De quoi est-ce que c'est fait ?
Croyance, effectivement. Mais j'ai du mal à faire autrement, c'est ça.
Tu ne peux pas faire autrement, n'essaye même pas.
Ouais.
Tu ne peux pas ne pas te sentir séparé quand tu te sens séparé. Il n'y a même pas besoin d'essayer. Et tu seras déjà beaucoup plus tranquille. Parce que souvent, il y a je ressens quelque chose, je ne veux pas le ressentir, qu'est-ce que je vais faire pour ? Ça n'en finit plus. On rajoute des couches. À chaque fois, on complique le problème. Mais tu te sens séparé, tu te sens séparé. Qu'est-ce qu'il y a avec... Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas un problème. Par contre, regarde la réalité de ce sentiment, cette sensation. Déjà, par exemple, si on parle de sentiment ou de sensation, où est-ce que c'est inscrit dans le corps ? Je me sens séparé de l'environnement. Quelles sont les sensations physiques pures, hein, vraiment pures ? Il s'inscrit au sentiment de séparation dans le corps.
Oui, c'est au niveau, encore une fois, de la mémoire.
C'est-à-dire que tu n'as pas de sensation corporelle, tu ne repères pas de sensation corporelle ?
Ah, si, bien sûr.
Lesquelles ?
Je sais pas, les fourmis dans les jambes.
Non, je parle de, non, pardon, de sensation corporelle qui disent il y a un sentiment de séparation. Toi, quand je suis en colère, je pense, serre les mâchoires, je pense les sourcils, je compte encore. Quand je suis triste, il y a les yeux qui pleurent, j'ai tout défait. Enfin, bon, je caricature, tu vois, je veux dire, mais quand je me sens séparé, c'est quoi les sensations physiques ?
Crispation.
Elles sont tellement fines qu'on a bien du mal à les sentir. Hein. Crispation, où ça ?
Rétrécissement.
Où ?
Dans les mâchoires, dans.
Ok.
L'articulation.
Marie ?
Oui, dans la poitrine.
Dans la poitrine. Pareil, les autres, hein. Faites en même temps. Hein, et pas... Ok.
Je sens le vide.
Oui ?
Je sens le vide.
Le vide. Ok. Une impression de vide, mais ça, c'est pas une sensation physique. Je prends sensation de vide, hein, complètement. Mais ce n'est pas une sensation physique.
Avoir froid.
Oui. Est-ce que c'est... Est-ce que le, alors, et après, l'étape suivante, c'est est-ce que les sensations physiques que vous repérez, qui par exemple s'étiquettent, enfin, sont étiquetées sentiments de séparation, s'étiquettent elles-mêmes sentiments de séparation, ou est-ce que ce sont des sensations physiques comme les autres ? Par exemple, tu parles de contraction.
D'angoisse aussi.
L'angoisse, ce n'est pas une sensation physique. Mm-hmm. Non. Non. La sensation physique pure, c'est tension, contraction, pression, piqûre, brûlure, chaleur. Enfin, c'est des choses, c'est très pauvre. On a très très peu de mots. Il y a une pensée. C'est une pensée. C'est-à-dire, je pense, je me sens séparé. Je pense, je suis séparé. Et il y a adhérence à cette pensée. Et ça devient notre réalité. Est-ce que cette pensée est vraie ? Est-ce que réellement, là, maintenant, tout de suite, vous êtes séparé de votre environnement ? Ben, évidemment pas, hein. Ne serait-ce qu'à travers l'air que vous respirez, ou vous entendez le son de ma voix, ou vous entendez la clim, ou il y a des impressions visuelles. On n'est pas séparé de l'environnement. On ne peut pas l'être, en plus. Alors, de quoi est-ce que donc, est-ce qu'on pourrait être séparé ?
Des autres corps ?
Des autres corps.
Non, mais c'est pas vraiment de sa déité, de son être-té.
Ah, de son être-té. Est-ce que tu es séparé de mon corps ou est-ce que tu es en train de le voir ?
Je vois.
Est-ce que tu entends le son de ma voix ? Et le son de ma voix, tu l'entends où ? T'es sûr que c'est pas dans tes oreilles, par hasard, que c'est entendu ?
Ça se propage dans l'espace.
Ça se propage dans l'espace.
C'est perçu par mes oreilles.
Et c'est perçu par ton corps. C'est perçu au sein de ton corps. Les impressions visuelles de mon corps, il est perçu par tes yeux, au sein de ton corps. Voilà. Et en plus, pour peu que les paroles que je prononce résonnent en toi, c'est dans ton corps que ça se produit. Alors évidemment, d'un point de vue strictement physique, matériel, on peut dire que le corps qui est là-bas n'est pas le corps qui est ici, qu'il y a une séparation entre les deux. Non, il y a une distance entre les deux. Mais si tu veux, bon, ça, je te demande pas de me croire sur parole, surtout pas. C'est des expériences. Mais aussi, surtout, on sait que, ben, par exemple, les gens qui peuvent soigner les autres gens à distance, c'est bien que c'est pas si loin que ça, quoi. Par exemple, il y a plein de choses. Mais il se trouve que, d'une façon générale, on est tellement identifié à ce corps mental que il n'y a plus la possibilité de percevoir l'entièreté de la chose. À quel point tout arrive en moi et non pas à moi. À quel point tout arrive en moi. Les corps apparaissent en moi. Ce corps apparaît en moi. Et ce corps là-bas apparaît en moi. De la même manière.
Alors, si je dors, je ne suis pas non plus séparé. Parce que j'ai toujours des perceptions, la conscience.
Ben oui, séparé de quoi?
Dans l'environnement, dans la pièce dans laquelle je suis, par exemple.
Ben évidemment pas. T'es couché sur un lit, avec un peu de chance, et il supporte ton corps. Séparé de son être-té. Essayez une seconde d'arrêter d'être. Là maintenant. Essayez d'arrêter d'être. Est-ce que vous pouvez arrêter d'être?
Bah non.
C'est quand
on est mort.
Bah ça, j'en sais rien. C'est pas dit. En tout cas, là tout de suite, vous ne pouvez pas arrêter d'être. Essayez d'arrêter d'être. Et si vous sentez que, ah ben non, je ne peux pas arrêter d'être, c'est qu'il y a une connaissance, hein, il y a quelque chose dessus, il y a quelque chose de complètement présent en vous, qui est la conscience d'être. Je sais que je suis, quoi, et j'en doute pas. D'accord? Tout le monde est d'accord avec ça? Sinon, il faut m'arrêter tout de suite. D'accord? Donc, si je sais que je suis, et que j'ai aucun doute là-dessus, bah, restez un peu avec ça, avec cette connaissance-là. Ça, souvent, on l'oublie complètement. Enfin, on s'en occupe pas, c'est tout le temps là, on s'en occupe plus. Hein. Restez avec cette conscience d'être, avec cette être-té. Je ne peux pas ne pas être. Et restez avec ce que ça crée en vous. Et si vous le perdez, revenez. Essayez de nouveau d'arrêter d'être, et tout de suite, c'est là. Et quand vous êtes juste avec cette conscience d'être, c'est comment? Comment vous sentez? Est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce qu'il y a l'idée d'un moi? Et comment c'est de ressentir ça? L'impression de lassitude, quoi encore? Plénitude?
Tranquillité.
Allez-y.
C'est paisible.
Pardon?
C'est paisible.
Paisible. La paix. Combien de temps il a fallu pour sentir ça, pour que ce soit là? Est-ce que vous en êtes coupé à un moment donné ou à un autre? Est-ce que vous pouvez être coupé de votre être-té? Vous l'êtes, vous ne pouvez pas. Par contre, on en a plus ou moins conscience.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'on perd le
quotidien? Tu ne perds pas l'être-té.
Mais qu'on perd cette conscience-là, en fait, parce que c'est facile.
Mais simplement que la conscience s'oriente vers autre chose.
Oui, parce que dans le quotidien, avec le travail, pouvoir garder cet espace, pas en arrière, c'est super, mais il y a...
Et pourquoi voudrais-tu faire ça?
Pour être plus tranquille.
Voilà, comme ça je serai plus tranquille. Sous-entendu, je ne suis pas tranquille. Sous-entendu, c'est pas bien de ne pas être tranquille. Je serais mieux si j'étais tranquille.
Oui, mais c'est comme... Mais il y a une habitude de sortir de cette conscience-là, de se projeter...
Oui, c'est pas seulement une habitude, c'est un vrai plaisir. Je sais plus qui disait, l'être tombe amoureux de sa création, de la manifestation. C'est vraiment, mais on y va, mais à fond, quoi.
La fatigue, fascination.
Oui, on est fasciné par les objets. On est fasciné par les objets. On est fasciné par les pensées, fasciné par ce qu'on voit, fasciné par ce qu'on peut entendre. On est fasciné. Ce qu'on peut acquérir, ce qu'on veut acquérir, c'est qu'on est fasciné si on veut acquérir quelque chose, ou quoi que ce soit.
Et si on se désire de sortir de la fascination,
Bah, t'es fasciné par ton désir de sortir de la fascination. Parce que sinon, ça tomberait aussi. Et ça, c'est intéressant à voir. Le désir, je vais toujours distinguer le désir de l'allant naturel, du mouvement de la vie. L'allant naturel demeurera tout le temps. D'accord ? Le désir est toujours lié à une idée de futur. Le désir, si je ne l'ai pas là, je voudrais l'avoir. Toujours lié à une idée de manque. Si j'étais en couple, je serais plus heureux, plus heureuse. Sous-entendu, tu vois, il y a l'idée que quelque chose qui n'est pas là, s'il était là, ça irait mieux. Je m'explique mal. C'est clair ou c'est pas clair ?
Non, c'est clair.
D'accord.
Je suis un petit peu quand même, j'ai l'impression qu'on vit un peu sous le joug du mental.
Évidemment. Évidemment. Tu ne remets pas en question ce qui s'y vit. C'est cru d'office. Toutes les pensées qui apparaissent sont crues d'office. Évidemment, tu joues sous le. On est tous. Le monde vit sous le joug du mental. Accroché à la première. La pensée racine, c'est la pensée moi, la pensée je, disait Ramon Amarfi, c'est exactement ça. On est tous sous le joug, le monde là extérieur, enfin la civilisation actuelle, est sous le joug de la croyance en un moi. Je ne sais plus qui disait la secte la plus répandue au monde, c'est la secte du culte du moi. C'est la seule d'ailleurs. Les autres, c'est des branches. Après, ils étaient là-dessus les uns sur les autres. Ils n'auraient pas vu qu'ils faisaient partie du même arbre.
En même temps, tu dis qu'il ne faut rien faire.
J'ai pas dit qu'il fallait rien faire. Tu m'entendras jamais dire qu'il faut rien faire. D'ailleurs, je dis tout le temps regarde. En disant, c'est pas toi qui regarde. Tu regardes. Parce que. Il faut que je fasse quelque chose, c'est une stratégie. Il faut que je fasse rien, c'est une autre stratégie.
Oui, ouais.
C'est faire rien. C'est encore faire. Ça, ça n'a aucun sens. Et je disais tout à l'heure, attention, le désir n'est pas l'allant naturel. L'allant naturel demeure. Ben, l'allant naturel, c'est en fonction de ce qu'elle a maintenant. C'est jamais en fonction d'un futur hypothétique ou d'une idée que je me fais à propos d'eux ou d'un passé qui est révolu.
Et quand on est obligé de rester dans le concept, même pour avoir une démarche intellectuelle qui
ça, ça s'appelle une pensée. On est obligé de rester dans le concept.
Oui,
là, pour moi, ça
ne
veut rien dire, mais c'est une pensée.
Mais
qui est obligé de rester dans le concept ?
Voilà.
Et ça veut dire quoi, obligé ? Et ça veut dire quoi, concept ? De quoi tu me parles ?
Pour aller au-delà de l'identification.
Wow. Mais qui veut aller au-delà de l'identification ? Pourquoi ? C'est mal d'être identifié, mais qui a dit ça ? C'est une pensée.
D'accord.
C'est encore trop.
D'accord.
Ouais, mais si tu restes avec... Attends, alors, il y a identification. Déjà, tu es obligé de dire « je suis identifié », tac, terminé, pensée. Par contre, il y a identification, ça c'est une constatation. Il y a identification.
Donc, en général, on est plus dans la tête que dans le cœur. C'est ça, en fait, regarder, c'est ouvrir son cœur. Ah, d'accord. C'est toi, Patrick.
Non, regarde. Tu peux pas être hors du cœur. On pourrait dire tout arrive au sein du cœur, tout arrive au sein de ce qui est, tout le temps. Tout arrive au sein de l'amour inconditionnel, tout arrive au sein de l'accueil, tout arrive au sein de la paix, tout arrive au sein de ce qui est. Ça ne peut pas être autrement.
Je suis d'accord.
Bon, mais tu es d'accord, le truc, c'est que est-ce que c'est vécu ?
Non,
est-ce que c'est actualisé ? Est-ce que c'est réalisé ? Ou est-ce que c'est. Tu l'as compris ou tu l'as vu un jour ?
Je pense qu'il y a une espèce de compréhension, oui. Mais que pour aller de là à là, ça devient.
regarde, la seule, il n'y a pas d'autre solution que, bon, qu'on peut appeler autrement, hein. On peut dire écoute ou être avec, quoi, etc. Et continue, vas-y, quoi, parce que c'est exactement ça, tu es au cœur du cœur de ce dont on parle.
Et si on prend les événements,
oui,
les problématiques, les, oui, événements, oui, de notre vie,
ben, ils arrivent.
Ils arrivent.
Ben oui.
Ils ne sont pas la conséquence de pensées crues. Penser qu'on a cru.
Bon, ou... ben, c'est-à-dire que ça dépend des points de vue que tu te places. D'un point de vue existentiel, on peut dire oui, bien sûr, ils sont la conséquence de pensées crues, de croyances, évidemment. Oui. D'un point de vue existentiel, d'un point de vue essentiel, d'un point de vue, comment on dit, absolu, cette réalité est illusoire. En réalité, il n'y a rien là, c'est juste un rêve.
Il n'y a rien là, mais c'est quand même là, ici. Qu'est-ce qu'on en fait ? Une fois qu'on les a créés, qui sont là.
Mais c'est pas toi qui les a créés. Parce que dès que tu dis, dès que tu dis une fois qu'on les a créés, elle dit d'un moi.
Tu as créé ça ?
Non, mais non, il n'y a pas de moi.
Oui. Alors qu'est-ce qu'on. Moi, je suis d'accord avec tout ça, mais. Et quand il y a un événement qui fait souffrir.
S'il y a un enfant qui traverse la rue alors qu'il y a une voiture qui arrive, est-ce que tu te poses la question de savoir ce que tu vas faire ? Non. Pourquoi ?
Bah, c'est instinctif. C'est.
La question pourquoi n'a aucun sens. Ça se fait. Tu comprends ? C'est ce que j'appellerais l'allant naturel, le mouvement de la vie. Alors tu peux te mettre à réfléchir des heures sur quoi faire dans quelle telle situation et comment je ferais à l'avenir si. C'est juste des pensées, tu peux les croire. Ou tu peux les laisser passer. C'est vrai que quelque part, à un moment donné, il y a une peur qui vient parce que. Ça s'appuie sur la confiance, tu vois. C'est-à-dire que, bah, de toute façon, au moment voulu, ça saura quoi faire. T'as pas appris à bloquer un gosse qui traverse la rue s'il risque de se faire écraser. Tu comprends ? T'as pas appris ? Et cependant, on n'a pas confiance dans le mouvement naturel des choses, de la vie, dans l'allant naturel. Mais alors, attends, alors si Jérémy me dit, mais attends, mais arrête de penser à ce que tu vas faire dans l'avenir. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais on pourrait l'interpréter comme ça. Mais alors, mais je vais faire quoi ? Mais comment ça va être ? Mais tu vois, on est pris d'une peur. On nous demande tellement d'être au top et de savoir quoi faire dans telle et telle situation. Mais...
C'est le problème, c'est notre cerveau. Si on était comme un animal, par exemple.
Nous avons aussi un cerveau, hein.
Oui, mais il n'a pas les pensées. Enfin, peut-être pas la.
Ouais, non. Il fera peut-être moins aux pensées, on n'en sait trop rien ce qui se passe, mais bon, on continue à proposer du cerveau.
Il y a plus d'instinct.
Ils sont plus dans le mouvement
naturel.
L'être
humain, il n'a pas le. Pardon ?
Ils sont plus dans le mouvement naturel de la vie.
Voilà. Et nous, on n'y est plus, alors.
Ben, on y est sans y être, c'est-à-dire qu'il y a. On y est, parce qu'on ne peut pas y être d'un côté, si tu veux. Et de l'autre côté, on n'y est pas en ce sens que. Les pensées viennent à chaque fois, tu vois, entraver ce qui est simplement naturel.
Voilà. Alors les événements, ils viennent d'où ?
Ben, ils arrivent.
D'où ?
Ben, d'où vient le beau temps ? D'où vient l'hiver ? Au niveau existentiel, il peut y avoir plein de raisons, mais tu peux juste constater que ça arrive. Je viens de bouger les mains, est-ce que j'ai réfléchi à ça ? Ben non, ça s'est fait. Ça vient d'où ? Ben, c'est cette nature qui s'exprime comme ça. Même le ton de ma voix, je ne le choisis pas. Je veux dire, ça se fait. Mais les mots que j'emploie, ben, ils sont liés à mon conditionnement, à mes conditionnements, évidemment, mais ça se fait, ça arrive. Je ne pense pas à chaque mot que je vais dire. Quand tu marches, ça se fait spontanément. Ça se fait, ça arrive. Et on est. Chaque organisme corps mental va agir en fonction de ses conditionnements et de ses gènes. Une chose qui demeure, c'est la personnalité. C'est-à-dire, avant de voir qu'il n'y avait pas de moi, j'aimais les bains de mer et le chocolat. Aujourd'hui, je continue à aimer les bains de mer et le chocolat. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est, ça demeure. Ça, pourquoi ça s'arrêterait d'ailleurs ? Dieu. À la fois rien et tout. C'est-à-dire qu'apparemment, il n'y a rien qui change. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne s'en sont même pas rendus compte. Peut-être au bout d'un certain temps, et encore, c'est pas dit, non. Par contre, la recherche est complètement... Il n'y a plus de recherche. La recherche est terminée. Et puis, il y a une joie de vivre sans objet, quoi. Les choses ou bien me font rire, ou bien me touchent aux larmes. Et puis, dès que... tout arrive sur un fond de paix, de calme, de tranquillité, de joie, d'amour, etc. Et dès que le regard se tourne un tout petit peu de ce côté-là, ça déborde. C'est toi, ça déborde, ça s'écoule. Voilà, par exemple. Mais surtout, il n'y a plus de recherche, il n'y a plus de... j'y arriverai jamais, il n'y a plus... Tous ces trucs-là, ça tombe, quoi. Des remises en question sur qui je suis, pour comment je devrais être, comment je devrais pas être. C'est fini, tout ça. Qu'est-ce que je dois acquérir? Bon, c'était déjà bien tombé avant tout ça, mais c'est fini. Il peut y avoir des pensées de n'importe quoi. Juste après, les 3 jours qu'on suivit, il y avait la pensée moi qui revenait. Ah, mais attends, tu vis ça, c'est qu'il y a encore un moi. Puis tu vois, c'était. Ah ben non, il n'y en a pas. C'était vu que c'était juste une pensée. Donc ça s'est effondré en rigolant en même temps. C'est revenu comme ça, 2-3 jours. Puis après, c'est plus revenu, puisque à force de voir que c'est faux, ça ne revient plus. Il peut y avoir des impressions de n'importe quoi, de manque, de colère, une tristesse, ça peut apparaître. Mais dès l'instant où c'est vu comme étant faux, c'est vu comme n'ayant pas d'objet. Ça s'effondre, dans la seconde. Et ça ne vient rien entraver, ça fait rire, je veux dire, ça fait rire, ça ne vient rien entraver à ce que je suis, à ce qui est en fond. Ça n'interrompt pas le courant, ça apparaît au sein de ce courant, un peu comme ploup, tu vois. Voilà quoi.
Le shift, c'est la carte au lait qui s'est réveillée et qui ne voyait plus les choses de la même façon. C'était comment pour toi, si on peut poser la question?
C'était au cours d'une discussion avec quelqu'un qui faisait justement remarquer que c'était que ça et ça et ça c'était des pensées. Tu vois, mais ça c'est une pensée, mais ça c'est une pensée. Ah oui, et pouf, et à mesure que. Ah oui, c'est une pensée. Et à mesure, elles étaient lâchées. Et à la fin, il ne restait rien. Et il est apparu aussi, je ne sais plus trop comment ça s'est passé, on va dire. En fait, c'est un peu particulier, moi. C'est que si ça me revient. J'avais déjà vu des dizaines de fois qu'il n'y avait pas de moi. Mais je croyais que le moi allait et venait. Donc quand il y avait du Gérard, quand il y avait des réactions psycho-émotionnelles personnelles, je croyais que c'est parce qu'il y avait un moi. C'est faux. C'est une croyance. Et c'est ça qui a été défait. Si tu veux. Parce que voir qu'il n'y avait pas moi, j'avais déjà vu des dizaines de fois, quand, la première fois, je ne me souviens plus là maintenant. Et en fait, ce que j'ai défait avec ces personnes en parlant avec elles, c'était ça. C'était une croyance à l'apparition, à la disparition d'un moi. Non, il n'y en a jamais eu. Et croire que s'il y a des réactions personnelles, c'est qu'il y a un moi, c'est une croyance. C'est pas vrai.
Donc on n'a pas à mourir à son ego. Parce qu'on entend souvent ça.
Mais c'est quoi l'ego?
Voilà.
L'ego, l'ego aujourd'hui, je le définirais comme la pensée moi associée à tout ce que ça a créé après. En termes de conditionnement, de croyance, de stratégie, etc. Il n'y a pas à mourir à l'ego.
Ça, on le lit souvent.
On ne parle pas de la mort d'ego, on parle de la mort du moi.
Alors que moi, je ressens souvent... quand il y a une pensée, une dissolution immédiate.
Mais bien évidemment.
Alors, je dis, bon, c'est peut-être ça la loi, en fin de compte, de ce petit... Voilà.
Ben non, parce que quand non. Oui, enfin, ça dépend. C'est pas la mort, en ce sens que quand il n'y a plus de pensée, et tu sens quand même, dans l'instant où il n'y a pas de pensée, le corps est vivant, etc. Mais c'est pas la mort. C'est simplement l'effondrement d'une croyance. Un jour, vous avez arrêté de croire au Père Noël. Un jour, vous arrêterez de croire au moi. C'est aussi bête que ça.
croire à... Je pensais être responsable d'avoir un moi. Je me sentais encore ce matin.
Mais ça, c'est une pensée surajoutée.
Une pensée surajoutée.
Surajoutée. Oui. La première, c'est l'idée qu'il y a un moi. Tu crois qu'il y a un moi.
Oui.
Pour dire que tu es responsable de l'existence du moi, ça vient d'où ça? Je ne sais même pas.
Être responsable, tu vois, pour moi, c'était une qualité. Être responsable.
Ah, bah oui, c'est une qualité, oui, c'est ce qu'on nous a appris.
Voilà. Et là, je suis bien en train de me sentir responsable. Enfin, je me suis responsable de quoi? Et puis ce matin, j'ai vu que je suis responsable de m'être créé un moi et puis d'avoir un
chien dedans. Est-ce que c'est toi qui as choisi ça? Est-ce que tu as choisi de te créer un moi? De croire en un moi? Est-ce que tu peux voir un jour où tu as dit, ça y est, je décide, je vais croire en un moi, à tout jamais, et croire, et en plus, je vais oublier que c'est une croyance, je vais croire que vraiment c'est vrai? C'est complètement débile, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui s'est fait?
La débilité,
pardon?
Au niveau de la débilité, là, j'en ai un bon paquet.
Non. Ça n'a du sens, parce que tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Mais ma débilité, tu ne l'as pas fait. Ça s'est fait.
Ça s'est fait. Mais j'ai quand même cru que j'en étais responsable.
Mais oui, mais comme tu crois plein d'autres choses. C'est pas toi qui as cru ça. Il n'y a pas un moi qui aurait pu y croire. Il y a croyance. Il y a adoption d'une croyance.
Parce
qu'il y a conditionnement. Parce qu'il y a des gens qui, pendant les premières années de ta vie, t'ont répondu, t'es responsable de ce que tu fais. Fais attention.
Oh, et puis j'ai bien aimé les enfants, tout le monde. Je mets tout le monde bien.
Pardon?
Je mets tout le monde bien dans le
sens. Mais oui, parce qu'après, quand on a des croyances, et ben on les vend aux croyances.
Oui, bien.
Ah bah oui. Bien. Regardez comment ils tournent. Chacun vend ses croyances.
Donc c'est à cause de ses croyances qu'on est tous si
différents. Moi c'est grâce.
Il n'y a pas de moi, mais on est tous différents.
Ah, ça s'appelle une pensée, et je crois que même si on croyait à rien, on serait quand même différents. Regarde les arbres, il n'y en a pas de pareil, et je ne crois pas qu'ils pensent beaucoup. C'est la magie de la vie, c'est la profusion de la vie. La manifestation, il y a des milliards et des milliards de formes, elle en crée tous les jours, tout le temps, à chaque milliseconde. C'est la vie. Pas... Et même quand on ne croit plus à ses pensées, on reste différent des autres. Personne n'aura jamais le même ton de voix que moi. Les mêmes mots au même moment, les mêmes gestes. Jamais. Même moi, je ne peux pas me reproduire. Même moi, je ne peux pas redire exactement de la même manière ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps.
On ne sait pas pourquoi ça change.
C'est la vie, ça change. La vie est mouvement.
Quand on a l'impression que c'est toujours les mêmes idées, les mêmes conditionnements, les mêmes réactions physiques, c'est une croyance.
Oui.
C'est
une croyance. Et non, c'est-à-dire que c'est jamais tout à fait la même chose. Et en même temps, il y a des schémas qui se répètent parce qu'il y a des conditionnements. Tous les jours, tu te réveilles et tu crois que tu as un moi. Tu crois que tu es moi. Enfin, toi.
Et on ne peut pas choisir de plus croire.
Non. Non. Mais ce que tu viens de dire s'appuie sur une idée. Ce serait mieux si j'arrêtais de croire.
Oui.
Deux idées. Arrêter de croire, c'est mieux. Moi, pourrais arrêter de croire.
Ah, moi, je suis responsable
en plus. Oui. Oui, encore.
Mais si tu regardes ces idées... Tu vois, juste, tu ressens un inconfort parce que tu crois en un moi. Ça, c'est ta réalité aujourd'hui. On va partir de là. Je ne dis pas qu'elle est définitive, mais on va dire que c'est celle-là. Et puis vient une pensée Si j'arrêtais de croire en un moi, ça irait beaucoup mieux. Qu'est-ce que ça crée dans ton corps de penser ça?
Une tension.
Une tension. Est-ce que c'est agréable, désagréable, neutre?
Désagréable.
Plutôt désagréable. Est-ce que ça apporte des choses positives de croire à cette pensée?
Non.
Est-ce que tu es sûr que tu irais, dans ton expérience, que tu irais beaucoup mieux si tu ne croyais pas en un moi? Là, maintenant, tout de suite. Je sens comme un petit doute dans ta phrase. Est-ce que tu peux en être sûr à 100% que tu serais beaucoup mieux sans ces, si tu n'avais pas de moi là maintenant? Si tu ne croyais pas à la pensée moi là maintenant? Non, tu ne peux pas en être sûr. Donc ta pensée, tu ne sais pas si elle est vraie. Donc tu peux la laisser passer. Maintenant, partons de l'autre côté. Imagine que tu ne puisses pas penser. Ça irait beaucoup mieux si je ne croyais pas en un moi. Imagine que tu ne puisses pas penser ça. Comment ce serait?
Plus calme.
Plus calme. Choisis ton camp. Si tu crois que tu as un choix. Est-ce que tu préfères croire en une pensée que tu ne sais pas être vraie et qui crée des tensions? Ou la laisser passer parce que tu es plus calme quand tu la laisses passer. Ben c'est tout. C'est ce qui vous est proposé tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est parce que quand on a une pensée, on peut déjà voir, mais si je n'avais pas cette pensée, comment ce serait? Je dis plus calme. Mais on peut aussi dire, si j'avais cette pensée et que j'y croyais pas. Imagine, tu as la pensée, ce serait mieux si j'avais pas de moi, mais tu n'y crois pas, tu la laisses passer. Ben, le calme est le même, il y a juste une pensée qui est passée dans le champ de la conscience. C'est tout. Ce n'est pas les pensées qui dérangent, c'est de croire dans les pensées. Ce qui dérange. En fait, ça ne dérange rien. Ultimement, de façon absolue, ça ne dérange rien, entendons-nous bien, mais bon, au niveau existentiel, ça dérange.
Dire que sans cette pensée, c'est plus calme.
Non, sans la croyance en la pensée. Si la pensée apparaît, mais qu'il n'y a pas de croyance en la pensée passe et le calme est là. Alors même qu'il y a identification à un moi. Ça, c'est comme tout à l'heure, quand on a fait l'expérience à essayer d'arrêter d'être. On pouvait sentir la paix, la sérénité, la tranquillité, alors même qu'il y a encore croyance en un moi. Mais on pense que la croyance en un moi, il faut s'en défaire, on va dire ça comme ça. C'est le problème, et c'est vrai que c'est un problème d'un côté, en fait, c'est pas un problème.
Alors cette lumière, cette intuition qu'il y a autre chose que le moi, ça vient d'où?
Autre chose que le?
Que le moi.
Que le moi?
Ça vient du moi.
Ben ça ne peut pas venir du moi, il n'y a pas de moi.
Ça vient quelque part. C'est quelque chose qui est quand même puissant en nous.
Eh ben oui. Et comment tu sais ça? D'où te vient cette connaissance?
C'est rien, c'est comme ça.
Regarde.
Et c'est puissant.
C'est puissant. Et il n'y a pas de doute.
Non.
Comme la conscience d'être.
Pareil.
Pareil. Peut-être rien du même espace. C'est inconnu, c'est insu. Évidemment que ce qui est sait que ce monde est illusoire.
Je vais
te porter. Vas-y, t'es là pour ça.
Comment ça émerge en nous, quoi, cette chose qui dit tu es pas loin.
Mais c'est une connaissance qui pré-est.
C'est, au départ, ça peut être un désir, une recherche du bonheur, comme tu as dit au début. C'est peut-être ça qui motive cette apparition, mais
Alors attends maintenant, moi je vais partir dans l'autre sens, parce que comment ça se fait que ce qui est omnipotent, hein, sache que tu n'es pas le moi, pour moi c'est une question qui peut un peu tomber, quoi. Mais surtout, comment ça se fait, puisque tu sais que tu n'es pas le moi, que tu continues à croire en un moi? Comment se fait-il, alors que je sais que c'est faux, que je continue à croire à quelque chose que je sais être faux? Ça, ça m'intéresse quand même. Là, il y a un truc à voir quand même, non?
Parce que j'ai une mémoire.
Une mémoire. Donc, je crois en un moi en raison du passé, parce que dans le passé, j'y ai cru.
Non, pas du tout. Non, c'est pas ça. C'est que ma mémoire me ramène, par la puissance du mental, me ramène à cette identification, toujours. Les pensées, c'est jamais moi.
Non, c'est des pensées.
Si, par exemple, une pensée me vient, j'ai eu un accident il y a 3 ans.
Tout ce que tu me dis là, c'est conceptuel, c'est des pensées.
Ouais,
ce que moi, je te regarde, ce que je demande, c'est de regarder. C'est-à-dire que depuis cet espace où tu sais que le moi est illusoire, il n'y a pas de moi, comment se fait-il, depuis cet espace, que de nouveau, il puisse y avoir croyance en l'idée d'un moi, puisqu'il est sûr qu'il n'y en a pas?
Mais ça fait des années.
Je sais que 2 et 2 fait 4. Et je continue à penser que ça fait 5.
Parce que le mental, il a une force, quelque part. Je sais pas, c'est une énergie.
Ça, c'est ce que tu penses. Regarde. Regarde le mécanisme. Le mécanisme. À un moment donné, il y a savoir, il n'y a pas de moi. Il y a l'illusion d'un moi. Et à un moment donné, il y a collage, il y a identification.
C'est une question importante.
Est-ce que l'esprit est divisé? Dans l'esprit, il y a...
Mais je veux pas une réponse intellectuelle, bâtie sur des pensées. C'est pas, elle n'a pas de réponse quelque part, cette question. Hein. C'est vraiment, c'est le regard. C'est le regard. Le regard peut se poser sur plein de trucs, peu importe, en fonction de votre nature, de qui vous êtes, de votre personnalité, il va se poser autrement, et vous n'allez peut-être même pas appeler ça regard, vous, ça n'a pas d'importance. Et pour toi, je te mets là-dessus, parce que c'est ça que tu manifestes là maintenant. Et puis, etc. Quelqu'un d'autre, ce sera autrement.
Moi, j'ai l'impression des fois d'être manipulé par moi-même.
Donc je me manipule. Il y a combien de mois?
D'accord, le diagnostic.
Et là, qui est ce moi qui manipule?
Ouais, c'est ça.
De quoi est-il fait? Il est où? Montre-le-moi. Tous, je vous pose la question. Montrez-moi le moi. Il est où? Vous croyez en un moi? Vous pensez que vous avez un moi? De quoi est-il fait? Allons-y.
Alors, ce matin, réveil, il est venu comme une autorité à l'intérieur de moi. Maintenant, ça suffit. Hein? J'avais vraiment imposé, maintenant,
oui,
ça suffit.
Ça suffit quoi?
Et là, je me suis dit, il y a encore l'autre qui vient m'emmerder. Non, mais c'est vrai, hein. J'avais une autorité, une violence envers tout, je me suis dit, maintenant, ça suffit.
Ça suffit quoi? Ça suffit
d'arrêter de continuer à penser tout ça. Et là, j'ai vu, tiens, il est encore là, il veut prendre le dessus, c'est ce qu'il a toujours fait. Il a pris le dessus sur moi, enfin sur moi. Il m'a fait croire qu'il y allait à la bataille. Je dis, en fait, ça ne va pas, toi. Et puis j'ai rigolé. C'était costaud. Hein.
Et en vrai,
c'est quand même quoi? Une violence incroyable qui disait tu vas.
Mais qui disait ça? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui disait ça?
Non, c'était moi.
Mais qui, moi?
Mais qui? C'est sa pensée.
La pensée? La pensée, c'est moi? Moi, c'est la pensée? C'est... Moi est une pensée? Je ne sais pas comment tu tournes ça. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui disait maintenant ça suffit?
J'ai entendu crier, oui.
T'as entendu crier?
Ouais.
Avec tes oreilles?
Non, mais je l'ai vu vraiment.
J'essaye
encore un coup.
Mais bon. C'était quoi? Il y a l'habitude de penser moi. Mais c'était quoi?
C'était quoi, vraiment?
Oui. Maintenant, ça suffit. Ça venait d'où? De quoi? Ça s'est manifesté comment?
Par une révolte.
Donc il y a un mouvement intérieur de révolte, il y a une pensée. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu un mouvement de révolte? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a pensé la pensée? Est-ce que tu as choisi d'avoir ce mouvement de révolte? Est-ce que tu as créé ce mouvement de révolte? Ou est-ce que c'est apparu?
Il est venu comme ça.
C'est apparu.
Oui, c'est apparu.
Donc, il y a eu apparition d'un mouvement de révolte, il y a eu apparition d'une pensée, il y a eu une pensée qui est revenue par-dessus, qui a dit maintenant, tiens, c'est encore le moi qui revient, mais c'est une pensée parce qu'il n'y a pas moi. Tu vois ce que je veux dire? Ah, puis il y a eu éclat de rire, et puis quand tu en parles, tu dis, enfin moi, entre guillemets, c'est rendu, c'est pas moi qui l'ai fait, ça s'est fait.
Oui.
Ben oui. Ben oui, mais c'est tout le temps comme ça. Ben oui, il n'y a pas d'autre mystère.
Non, c'est le mystère, c'est ça.
Il y a juste, ça arrive. Ça arrive, il y a un mouvement de révolte, il y a une pensée, il y a une demi-seconde de croyance, puis oh tiens, ça me reprend, et puis et ça rigole parce que c'est fini, ça s'effondre. Il reste quoi? Une histoire à raconter. Ou pas, voilà. Mais en tout cas, elle fait rire. Tu comprends? C'est-à-dire qu'une fois que c'est vu, eh ben, il vient. Il y a un truc qui s'est joué, qui a été vu comme ne m'appartenant pas, comme arrivant en moi, et a donc pas eu d'identification. C'est juste, ça m'a traversé. Ça a été vécu pleinement. Et c'est passé. Et ça m'a juste laissé le rire. Ben, c'est comme ça pour moi, la plupart du temps. C'est juste ça qui se passe. C'est juste des mouvements qui arrivent et qui circulent. Et puis voilà. Sur un fond qui est peut-être un peu plus conscient, c'est tout, qui est ce fond d'amour, de paix, de joie, de sérénité, de tranquillité, etc.
Alors, on n'est que le phénomène, en fin de compte. Le phénomène qui s'exprime, que la vie vit. Moi, je ne la vis pas. La vie vit.
Mais la qui, vie vit. C'est la qui vie le jeu qui ne vit pas? Tu ne peux pas dire que tu ne vis pas ce que tu vis.
Non, mais ce n'est pas moi qui décide la vie, c'est la vie qui vit en moi.
La vie se vit, voilà. En moi, mais qui moi?
Dans ce corps-là, dans cette...
La vie se vit dans ce corps, mais bien sûr, ce corps est vivant. Oui. Ce corps est vivant.
Et c'est pareil, si c'est l'amour, c'est l'amour qui aime en moi, c'est pas moi qui aime. Moi, j'ai... Parce qu'on dit
voilà, il y a besoin d'un shift, là.
Non.
C'est qui es-tu dans tout ça? Parce que là, tu restes identifié à ce corps mental, à cet organisme, dans ce que tu dis.
C'est ça le problème.
Est-ce que tu es plutôt l'organisme corps mental ou est-ce que tu es plutôt ce qui ne peut pas ne pas être?
Je ne peux pas ne pas être.
Oui.
Je ne peux pas.
Oui. Et est-ce que tu es plutôt cet être-té ou est-ce que tu es plutôt l'organisme corps mental?
Tantôt l'un, tantôt l'autre. Pour l'instant, hein. On va être tout net.
D'accord.
Parce que tout à l'heure, quand j'étais bien, à ce coup, j'ai dit, mais ça ne va pas durer. Donc c'était bien une pensée qui revenait, donc j'ai vu passer. Mm-hmm.
Tu veux, pour moi, quelque chose qui est très important, c'est de réaliser que les choses n'arrivent pas à moi, mais en moi.
Ah oui. C'est pour ça que je ne dis pas moi. Enfin,
oui, oui.
C'est la vie qui se vit là.
Voilà. Et tu ne veux pas dire que tu ne le vis pas, parce que tu le vis complètement. Tu vois, le mouvement de révolte ce matin, il est complètement traversé le corps, tu l'as complètement vécu. Et le rire aussi. Donc c'est pour ça, je ne sais pas comment aller plus loin avec ce que je soulignais tout à l'heure, mais juste faire attention à ça. Les choses sont pleinement vécues, mais ce n'est pas à moi qu'elles arrivent. Elles arrivent en moi. Mmh. Elles sont pleinement vécues beaucoup plus qu'avant. Beaucoup plus qu'avant. Elles sont plus refusées.
Tout à l'heure, vous avez parlé de personnalité. Elle se manifeste. C'est quoi la personnalité ? C'est à travers le corps ?
Non, on est chacun différent, si tu veux. Comme les arbres sont différents, les fleurs sont différentes les unes des autres, même deux roses ne sont pas semblables, tu vois. Et nous aussi, on a des différences, c'est ce que j'appellerais la personnalité. C'est plus lié au gène, il y a une partie qui est liée au conditionnement, mais c'est surtout lié au gène aussi, tout simplement. Et au conditionnement aussi, hein. Je pense que les bains de mer, c'est des gènes. Et le chocolat, c'est le conditionnement. Mais je peux me tromper. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, on est tous différents. Et ces différences demeurent. On a des pôles d'intérêt. Votre mari aime bricoler. Il y en a d'autres, ils n'aiment pas bricoler. Ça demeure. Que ce soit conditionné ou que ce soit les gènes, peu importe, c'est des choses qui sont juste là, qui sont tranquilles, pareil. C'est-à-dire que je ne sais pas quelle idée vous avez de l'éveil, mais enfin l'éveil, c'est quelque chose de très simple, de très naturel. C'est très naturel. Il y a plein de gens qui ont réalisé qu'ils n'avaient pas, qu'il n'y avait pas de moi. Il y en a même qui en ont jamais eu moi. Il y en a même qui n'ont jamais eu la croyance en moi. Et ils vivent dans le monde, vous ne les voyez pas, vous n'en apercevez pas. Juste, ils sont peut-être un peu plus souriants, ils rigolent peut-être un peu plus que les autres, mais c'est tout, quoi. Ce qui ne veut pas dire que tous ceux qui sourient et qui rigolent sont éveillés.
On est identifié aux pensées, c'est toujours la dernière pensée qui donne l'impression de moi. C'est toujours la dernière qui a raison. Et en fait, ça voudrait dire que si chaque pensée, en plus, ça change beaucoup, il y a des parties, quand on regarde de loin, c'est pas logique. On aurait mille mois.
Ouais, c'est peut-être que tout ce que tu viens de dire, c'est des pensées et que c'est pas la réalité. Je sais pas.
C'est discursif.
Oui.
Comme souvent, quand on est collé aux pensées, il y a, par exemple, il y a une partie qui peut être victime et l'autre partie qui dit « t'as encore fait ça ». Alors, il y a...
Il y a un conflit intérieur, il y a des croyances, les deux côtés sont des croyances. Ouais. Tout ça s'appuie sur des croyances. Il y a l'idée d'un moi, l'idée d'être une victime, l'idée d'être responsable de ce que j'ai fait, ça fait dire au moins trois, tu vois. Cru. Les trois sont crus. L'idée que je suis responsable de ce qui se passe, l'idée que j'aurais dû faire autrement, etc., etc. La promesse que je ne fais plus pareil. Tout ça, c'est tout des pensées. Mais si tu regardes toutes ces pensées, tu vois que si tu arrêtes de croire en un moi, toutes les autres s'effondrent. Parce que s'il n'y a pas de moi, tu ne peux pas penser « j'aurais dû agir autrement ». Bon, on peut le penser, mais on ne peut pas y croire. Enfin, ça, la pensée peut survenir, mais elle ne peut pas être crue.
Du coup, elle est cuite.
Voilà. Elle est cuite. Elle passe à la frappe.
C'est assez un des boulots, je trouve. De toujours chasser ses pensées.
Ben, ne le fais pas. Il n'y a, a pas à chasser les pensées.
Ou pas chasser, ou pas ne pas croire à la pensée. C'est ça que vous avez dit tout à l'heure. Ça. Il ne faut pas croire ce qu'on pense.
Tiens, j'ai pas dit qu'il ne faut pas croire ce qu'on pense.
Vous n'avez pas dit ça.
J'ai dit regardez.
Regardez.
Regardez, est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce que les pensées que vous avez sont vraies? Parce que si vous adoptez juste une autre croyance, du style il ne faut pas croire aux pensées,
ouais.
C'est une pensée, c'est une croyance, pensée, c'est pas
ouais.
La peine.
Ouais.
Ça ne sert à rien, ça ne va rien nettoyer du tout. Et de toute façon, c'est vrai que. En fait, vous savez, il manque rien. Tout est parfait comme c'est. Il n'y a rien à changer. Vous n'avez pas à être différent de comme vous êtes. Vous n'avez pas à arrêter de croire à des pensées. Vous n'avez pas à je ne sais pas quoi. Il n'y a rien qui doit être fait.
C'est une pensée qui me fait mal, qui arrive dans ma tête. Alors si j'y crois... Elle va perdurer et puis ça va générer je sais pas quoi un malaise
oui.
Je sais pas quoi.
Oui, mais c'est parfait, c'est ok comme ça.
Faut laisser ça.
Non.
Ah.
Je dis ni qu'il faut laisser ni qu'il faut l'enlever. C'est ce qui arrive.
Ce qui arrive.
Le regard permet de le défaire. Si on se souvient que le regard est là. Mais si vous n'en souvenez pas, ça ne vous appartient pas, vous n'y pouvez rien. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire, il faut que vous regardiez, parce que ça ne vous appartient pas non plus. Les choses arrivent. Et le mental, on a tendance avec la pensée à vouloir récupérer les choses et en faire une technique, une stratégie. Ça ne marchera jamais. Ça fait des années et des années, des siècles que les gens essayent d'être heureux
oui.
De façon toute constante, ils n'y arrivent pas.
Ah non,
on peut arrêter
pas.
Tout de suite, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les stratégies pour être heureux ne fonctionnent pas. Donc on peut les arrêter, elles ne fonctionnent pas. C'est la bonne nouvelle. Mais l'idée, arrêter toute stratégie, mon Dieu, mais on perd pied, quoi.
Oui, c'est ça.
On perd pied. Et effectivement. Je peux perdre pied. C'est un paradoxe constant parce qu'à la fois j'indique des choses et à la fois je dis ne les prenez pas. Ne vous en saisissez pas. Et c'est comme ça. Ça ne peut pas être autrement, je suis désolé. C'est pas le même niveau. C'est-à-dire que le regard. Vous êtes regard. C'est pas vous qui regardez. Il y a regard. Vous êtes regard. Tu es l'être, tu es le regard. Tu es l'accueil, tu es l'amour, tu es la paix, tu es la joie. On va dire ça comme ça. D'accord ? Tu es cela. Et quand je dis regarde, en fait c'est un abus de langage. Et souvent, ça, on a l'impression que ça s'adresse à moi. En réalité, ça s'adresse au regard lui-même. C'est le regard qui dit au regard, regarde. Ça n'a pas de sens.
Tu fais comme un espèce de rayon laser.
Oui, donc il y a un parfait, il y a un complet paradoxe, si tu veux. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui viennent s'asseoir sur cette chaise et disent « il n'y a rien à faire ». Vous ne pouvez rien faire. Et vous ne pouvez rien faire. Vous, en tant que moi, vous ne pouvez rien faire. C'est évident. C'est pas possible autrement. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Et moi, j'ai dit, regarde. Et plein pourraient dire, mais c'est n'importe quoi ce qu'il dit, Gérard. Ils ont raison. C'est n'importe quoi. Mais les mots ne pourront jamais traduire ça. Les mots ne pourront jamais. Ça peut être saisi à un autre niveau, mais ça ne peut pas être compris. Ça peut être, comment dirais-je, ça peut être réalisé, ah oui, mais ça peut pas, le mental ne peut pas s'en saisir.
Non, c'est quoi avec ce que je dis, alors? Qu'est-ce qu'on fait? C'est très perturbant, hein.
Bah, ou bien ça résonne et il y a un mouvement intérieur qui dit ah waouh, ah waouh, là j'ai compris quelque chose, ah waouh, là j'ai vu quelque chose, et voilà. Ou bien il n'y a pas ce mouvement intérieur, mais c'est tout à la poubelle.
La poubelle ou alors waouh.
Non, quand je dis mettez tout à la poubelle, vous n'avez pas le pouvoir de mettre tout à la poubelle. Mais on n'arrête pas de dire des bêtises. On ne peut pas faire autre chose que de dire des bêtises. Mais c'est le jeu de la vie. Mais ce que je veux souligner en disant ça, même si c'est complètement paradoxal avec tout le reste, et j'en ai parfaitement conscience, c'est que n'essayez pas d'en faire quelque chose, n'essayez pas d'en faire une stratégie, une technique, un moyen pour vous d'atteindre le bonheur, parce que les stratégies ne fonctionnent pas. Et en même temps, quand je dis ça, ça n'a pas de sens, parce que si je vous dis n'essayez pas de faire ça, mais à qui ça s'adresse? Ça s'adresse à l'idée qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait essayer de le faire, mais il n'y a personne qui peut essayer de le faire. Donc ça n'a pas de sens. Vous comprenez ce que je veux dire? On est tout le temps dans ce paradoxe. Moi, j'ai toujours aimé le paradoxe, donc ça ne m'embête pas, ça m'abuse. Mais je comprends que ce soit complètement pour moi, quoi. On peut être perdu avec ça, évidemment.
T'es sûr que tu ne veux pas le faire pour nous?
De quoi? En fait, t'imagines.
Oh, là, tu t'imagines.
Ça fait trop de moi, tout ça.
C'est bon.
Mais comme il
existe.
C'est quoi le boulot d'un BI, alors?
Il n'y a pas.
Il n'y a pas.
Simplement, cette nature, dans cette personnalité, il y a la propension au partage, et puis voilà, c'est tout. Et en même temps, il y a on retombe dans le paradoxe, parce qu'on pourrait dire, non, tout ça, ça sert à rien, et puis de nouveau, hop, c'est récupéré, et puis au revoir, il n'y a plus rien. Et en même temps, c'est faux. Et en même temps, c'est faux. Parce que l'autre côté est vrai aussi. Parce que comme tu m'as demandé tout à l'heure comment ça s'est passé pour moi, c'est en parlant avec quelqu'un, en voyant avec cette personne, que j'avais des pensées crues, et donc en arrêtant de les croire, parce que j'ai vu que c'était que des pensées qui étaient fausses.
C'est une personne qui était dans l'éveil.
Ouais. Donc c'est faux. Mais cependant, c'est vrai quand même. Vous ne pourrez rien saisir de tout ça. C'est pas. C'est deux plans de conscience différents.
Ça se fait quand même par maturation, petit à petit.
Apparemment, oui. Apparemment. Et c'est une pensée. Tu n'es pas obligé de la croire. Écartelé et Byron Katie se sont réveillés sans aucune préparation. Enfin, tout d'un coup, ils ont réalisé ça et il n'y avait aucune préparation. Et il y en a d'autres. Donc, c'est pas vrai, dans l'absolu. Nul ne connaît ni l'heure ni l'endroit. Encore moins les motifs. Je sais pas, ça arrive. Ça arrive.
Ça arrive ou ça n'arrive pas?
Alors là, j'ai carrément parti de l'autre côté, c'est déjà là. Vous êtes déjà ce que vous êtes, vous ne pouvez pas ne pas l'être. c'est réalisé ou c'est pas réalisé, mais de toute façon, vous l'êtes déjà.
Quand on dit le bonheur est en nous, donc si je comprends bien tout ce qui a été dit, il ne faut pas le chercher, puisque ça ne marche pas de chercher.
Ah, moi, je ne dirais pas le bonheur est en nous, mais je dis vous êtes le bonheur. Vous êtes le bonheur même. Vous êtes la joie même. Vous êtes l'amour même, inconditionnel, sans objet.
C'est une croyance ?
Non, c'est ce qui se vit à l'intérieur en permanence. C'est ce qui se vit à l'intérieur, pas à l'intérieur, c'est ce qui... Il n'y a pas les mots. Tous les mots trompent.
C'était une croyance, c'est de ne pas y croire, ça.
Y croire, c'est une croyance. C'est-à-dire, s'il dit, ah, Gérard a dit ça, mais j'y crois, ça, c'est une croyance.
Non, il a dit, je n'y crois pas, ça.
Non, il a dit, c'est une croyance.
Oui,
il a dit,
c'est une croyance.
C'est une croyance, oui, mais c'est justement...
Ici, c'est pas une croyance.
Non, c'est une question. Hein.
Oui.
Ici, c'est pas une croyance.
Et comment je peux avoir la certitude que je suis le bonheur ? Plutôt que de dire, le bonheur est en moi, pour que c'est parfait, c'est très bien comme ça.
Mais le bonheur est en moi, c'est aussi une pensée. Comment on peut en avoir la certitude ? On ne peut pas en avoir la certitude. C'est réalisé ou c'est pas réalisé ? Moi, je me fais souvent l'effet d'un battant de cloche qui frappe une cloche. Et c'est à force de. En parlant, c'est en évoquant tout ça, c'est. La cloche appelée Gérard résonne. Elle fait bon, elle dit vous êtes le bonheur. Et à force, les cloches qui sont autour se mettent à résonner par effet de. Comment ça s'appelle ? Une vibration. Peut-être qu'il se passe quelque chose comme ça. Ramana disait la meilleure chose qui puisse vous faire pour l'éveil, c'est vous asseoir auprès d'un sage. Pourtant pas être un sage. Sage. Il y avait beaucoup de singes autour de Ramana. Bon, mais c'est pas très bon. Je prétends pas être un sage, ça veut rien dire, mais en tout cas, je crois qu'il y a un effet comme ça, c'est-à-dire que puisque tout ça c'est des conditionnements, être en présence d'un non-conditionnement, forcément ça interpelle le conditionnement, ça leur met en jeu, ça leur met en question. Et puis interroger le conditionnement, forcément ça leur met en question. Donc en ce sens-là, d'un point de vue existentiel, on peut avoir l'impression qu'il se passe quelque chose. Absolu. D'un point de vue existentiel, ce monde est réel. D'un point de vue existentiel, vous entendez ma voix, il y a un corps, etc., etc. D'un point de vue absolu, en réalité, il n'y a rien là. Le temps et l'espace sont illusoires et tout ce qu'ils contiennent aussi. C'est un rêve. C'est-à-dire que quand vous vous endormez, à un moment donné, le rêve commence, le monde du rêve apparaît d'un seul coup. Tout entier. Et vous y croyez jusqu'à la fin du rêve, au moment où le monde du rêve disparaît d'un seul coup. C'est frappant que ça apparaisse et disparaisse d'un coup. Ben, ce monde, c'est pareil. Il apparaît au réveil, quand vous réveillez le matin, il apparaît d'un coup. Et il disparaît le soir quand vous endormez d'un coup. Il a la même réalité. Il est aussi illusoire.
Nous sommes seulement les rêves du bon Dieu.
Mais de nouveau, tu es identifié à ce corps mental, à cet organisme.
Oui, mais
quand tu dis nous sommes.
Et oui, je vois crème quelque chose qui est une unité.
Mais tu es cette unité.
Bien sûr, je ne peux pas dire le contraire.
Mais alors arrête de penser que tu apparais au sein de ce que tu es. C'est la même discussion que tout à l'heure, tu vois. C'est ce changement de perspective. Nous ne sommes pas ce corps mental. Bien évidemment, à un certain niveau, on est ce corps mental, cet organisme. En réalité, nous sommes cela au sein duquel le corps mental apparaît, l'organisme apparaît. Tous les organismes apparaissent, le monde entier apparaît, l'univers apparaît, l'espace et le temps apparaissent en moi.
C'est un corps spirituel, en fait, dont tu parles.
Non,
même pas.
Je parle de ce qui est. Tous les corps spirituels apparaissent en moi.
tout le corps spirituel apparaît en moi.
Dieu apparaît en moi.
Non, mais...
J'adore dire des choses comme ça, blanc.
Ça ne dérange pas, au contraire. Mais...
En tant que création, Dieu apparaît en moi. En tant que... Oui, oui, mais...
Par exemple, quand j'ai un projet, je le conceptualise, tu vois, et puis après, je le concrétise.
Mais qui a un bon, projet?
Je suis là sur Terre, il y a bien quelqu'un qui m'a conceptualisé pour que je m'actualise sur Terre.
Mais non, non,
on est sur Terre, on y est.
Ça apparaît.
Ça apparaît.
Ah oui, à chaque seconde, le monde est construit et déconstruit des milliards de fois par seconde. C'est une apparition au sein de la conscience, au sein de l'être, au sein de ce qui est. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de séparation. Et toi, dans ta perspective, tu restes identifié à l'organisme corps mental. En réalité, c'est juste une fraction de l'être qui vient se coller à cet organisme corps mental. Et toi, tu es identifié à cette petite fraction de l'être. Je mets des mots, hein, mais... Fais pas des axiomes dessus, hein. Tous les moments, tout le temps. En réalité, tu es l'être dans ton entièreté qui se prend, au lieu de dire Jacqueline, qui se prend pour Jacqueline. Mais ça fonctionne sans ça. Oui. Quel effort as-tu fait pour grandir? Il y a une phrase soufie que j'aime beaucoup. Le dharma, donc la vertu, la voie juste, c'est la vache qui chie dans le pré. C'est d'une profondeur extraordinaire. C'est pas de moi, donc je peux vraiment le dire. Quel effort fait-elle? Est-ce qu'elle choisit l'endroit où elle fait? Parce que cet endroit-là a besoin d'un peu plus d'engrais que l'autre, alors on va faire là, et je me pose et... Non. Ça arrive. Ça arrive.
Tu parles de constipé 210, ça ne comprend pas. Merci pour la vache qui
On va arrêter là, puis on recommence. On va arrêter là.